France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comment terminer un roman familial, politique, historique? Parfois, souvent, par la mort du héros. Pour l'émission Heure de culture française, le 30 janvier 1959, sur France 3 Nationale, René Catroux avait choisi d'évoquer la mort de Jacques. Mort à venir, dernier geste de fidélité à soi-même, éclairer la conscience entre deux armées. Extrait donc des Thibauts, de Roger Martin Dugard.
Vendredi 31 juillet 1914, veille de la mobilisation. Jacques vient de rentrer à Paris. Déjà, comme une mécanique perfectionnée, la guerre est en marche. L'Autriche attaque la Serbie et la Russie mobilise. La menace russe entraîne l'ultimatum allemand qui provoque la mobilisation générale française. Une poignée d'hommes d'État, de souverains, de diplomates ont, contre la volonté des peuples, déchaîné des forces de destruction que rien ne peut plus arrêter. L'Europe se joue à elle-même la fable de l'apprenti sorcier. Jacques Thibault, à l'avant-veille de la déclaration de guerre, ne désespère pas et met tout son espoir en Jaurès.
Tout, plutôt que l'abdication de la raison de la justice devant la force brutale et le sang. Tout, plutôt que cette horreur et cette absurdité. Tout, plutôt que la guerre.
Et cette révolte, lorsqu'elle deviendra désespérée, lorsque Jaurès sera tombé sous les balles d'un fanatique, portera Jacques à une action désespérée elle aussi, qui sera la seule conclusion qu'il pourra donner à sa vie. Être n'est rien, pensera-t-il violemment. Être, penser, croire, ça n'est rien. Ça n'est rien tant qu'on ne peut pas traduire son existence, sa pensée, sa conviction en acte. En ces ultimes et dramatiques journées, Jacques va pouvoir s'accomplir pleinement. Il a creusé jusqu'au plus profond de lui-même. Il vient de donner un sens définitif à sa vie. Mais avant de faire le geste qui justifiera tout en lui, il lui reste à réaliser son amour pour génie, en sorte que le solitaire se confonde auprès de l'être aimé avec l'humanité tout entière. Et c'est à l'heure du désespoir, à l'heure où la guerre n'est plus évitable, que génie et Jacques vont enfin se trouver. Nuit chaste comme une veille d'armes, nuit qui n'eût pu avoir lieu sans doute si la menace des lendemains tragiques était venue planer sur ces deux âmes torturées. Nuit suivie, 24 heures après, d'une réalisation plus complète, encore que fugitive. Samedi 1er août, la mobilisation générale est décrétée, Antoine va rejoindre son unité. Antoine qui s'aperçoit qu'il a tout manqué. Tout ce qu'il a cru solide autour de lui chancelle et va s'effondrer. Son désarroi est immense. A-t-il pu se tromper à ce point depuis le départ que tout d'un coup il ne croit plus en personne ni en rien?
La tourmente faisait chanceler les bases sur lesquelles il avait précisément construit sa vie. La science, la raison. Il découvrait soudain l'impuissance de l'esprit et devant tant d'instincts déchaînés, l'inutilité des vertus sur lesquelles son existence laborieuse s'appuyait depuis toujours. La mesure, le bon sens, la sagesse et l'expérience, la volonté de justice. Il aurait aimé pouvoir réfléchir, lutter contre la dépression, se ressaisir, se préparer stoïquement à l'inévitable.
Fidèle à sa pensée politique, à sa philosophie, Jacques refuse de servir une cause qui lui apparaît injuste. Que faire?
Ainsi, pendant des semaines, il avait vécu, sans douter un seul jour du triomphe de la justice, de la vérité humaine, de l'amour. Non pas comme un illuminé qui souhaite un miracle, mais comme un physicien qui attend la conclusion d'une expérience infaillible, et tout s'écroulait. Honte. Une rage froide, méprisante, lui serrait la gorge. Jamais il ne s'était senti aussi mortifié. Pas tant révolté ni découragé que confondu et humilié. Humilié par l'atrophie de la volonté populaire, par l'incurable médiocrité de l'homme, par l'impuissance de la raison. Et moi, se dit-il. Que faire maintenant? Dans un éclair de conscience, il plongeait en lui-même, au plus dense de sa solitude. Il y cherchait une réponse, un mot d'ordre, une direction. En vain. et il ne pouvait se défendre d'une sorte de panique devant sa propre incertitude.
Quand soudain, la parole d'un vieil anarcho-syndicaliste lui revient.
Il suffirait peut-être d'un rien. Si brusquement, entre les deux armées, un éclair de conscience.
Son parti est pris. Un projet qui cheminait dans son inconscient jaillit enfin à la lumière et s'empare de tout son être. Il gagnera la Suisse. Et sa contribution à la souffrance des hommes de l'Europe, il sait comment il va la fournir. Par un acte solidaire et décisif. Un acte qui sans doute impliquera un sacrifice total, mais qui aidera à faire obstacle à la guerre. Aussi, lorsque Jenny vient lui annoncer à la gare qu'elle ne peut pas partir avec lui et qu'elle le rejoindra dans quelques jours à Genève, Jacques, en dépit de son amour et de son désir, éprouve-t-il un immense soulagement.
Me voici libre. Ma mission.
Je te rejoindrai là-bas bientôt. Le plus tôt possible.
Oui, le plus tôt possible.
Mais en lui-même, il pense.
Ah non, jamais. C'est fini.
Son plan, il le met au point avec Ménestrel à Genève. Cet éclair de conscience qui doit frapper les hommes des deux armées combattantes, il va le provoquer en sacrifiant sa vie. Il fait imprimer en français et en allemand un manifeste qu'il a composé au buffet de la gare de Bâle. Ce manifeste, il ira en avion avec Ménestrel le jeter au-dessus des lignes dans le secteur d'Alsace. Il y montre aux soldats ennemis qu'ils sont des dupes, qu'on leur a fait croire qu'ils se battaient pour le droit et la civilisation, quand il n'a jamais été tenu compte du droit des peuples pour déclarer la guerre, et que la civilisation est en passe d'être détruite, écrasée dans d'horribles combats. Il incite les hommes à déposer les armes, à refuser le combat et à fraterniser. Et sur le plateau, alors qu'à l'aube blêmissante, il attend l'avion de Ménestrel qui va l'emporter au-dessus de l'Alsace, des doutes affreux l'assaillent.
Je n'agis ainsi que par désespoir. Je n'agis ainsi que pour me fuir. Je ne torpillerai pas la guerre, je ne sauverai personne. Personne d'autre que moi-même. Mais moi, je me sauverai en m'accomplissant. Avoir raison contre tous et s'évader dans la mort.
Et puis la certitude, un calme étrange qui se fait en lui.
La guerre jugulée, peut-être. La révolte, la fraternisation, l'armistice. Et même si ça ne réussit pas, quel exemple. Quoi qu'il arrive, ma mort est un acte. Relever l'honneur, être fidèle. Fidèle et utile. Utile, enfin. Racheter ma vie, l'inutilité de ma vie, et trouver la grande paix.
Et à la veille de cette grande paix, Jacques se prend à examiner par quel chemin la destinée la conduit jusqu'à ce dernier acte.
Suite de hasard ? Non. Certes, non. Tous ses actes se tiennent. Cela, il le sent. Il l'a toujours confusément senti. Son existence n'a été qu'une longue et spasmodique soumission à une orientation mystérieuse, à un enchaînement fatal. Et maintenant, c'est l'aboutissement, l'apothéose. Sa mort resplendit devant lui, semblable à ce coucher de soleil glorieux. Il a dépassé la peur. Il obéit à l'appel, sans vaine crânerie, avec une tristesse résolue, enivrante, tonique. Cette mort consciente est bien l'achèvement de cette vie. Elle est la condition de ce dernier geste de fidélité à soi-même, de fidélité à l'instinct de révolte. Depuis son enfance, il a dit non. Il n'a jamais eu d'autre façon de s'affirmer. Pas non à la vie, non au monde. Eh bien, voici son dernier refus, son dernier non à ce que les hommes ont fait de la vie.
Le rendez-vous sur le plateau me semble être le sommet de l'œuvre, alors que Jacques, l'oreille tendue, attend l'avion qui va se poser clandestinement sur un terrain de rencontre. Jamais Martin Dugard n'a atteint une telle maîtrise de sa pensée et de son expression. Dans ces quelques pages qui contiennent la conclusion que Jacques va donner à sa vie et celle que l'auteur donne à son roman, notre héros, comme dans un rêve, a la prescience des heures qui s'avancent, de ces dernières heures qui pointent avec le jour. Il se voit en face des juges militaires qui vont le faire fusiller. C'est M. Femme qui préside le tribunal. M. Femme, le directeur du pénitencier. Quel retour en arrière. Comme il se sent seul, seul contre tous. Et sa plaidoirie devient son testament politique, en même temps que la justification du sens qu'il a enfin réussi à donner à sa vie.
J'avais le choix entre un absurde sacrifice sur vos champs de bataille et le sacrifice dans la révolte pour la libération de ceux que vous avez dupés. J'ai choisi, j'ai accepté de mourir, mais pas à votre service. Je meurs parce que c'est l'unique moyen que vous m'avez laissé de lutter jusqu'au bout pour la seule chose qui continue à compter pour moi, en dépit de vos excitations à la haine, la fraternité entre les hommes. Moi, je sais ce qui m'attend. Mais vous autres, le savez-vous? Vous vous croyez les plus forts, aujourd'hui, sur un signe avec quelques balles. Oui, vous pourrez vous enorgueillir de m'avoir fait taire, mais vous n'arrêterez rien en me supprimant. Mon message me survit. Demain, il portera des fruits que vous ne soupçonnez pas. Et même si mon appel n'avait pas d'écho, les peuples noyés par vous dans le sang ne tarderont pas à comprendre et à se ressaisir. Après moi, vous verrez se lever contre vous des milliers d'hommes pareils à moi, forts de leur conscience et du sentiment de leur solidarité. En face de vous et de vos institutions criminelles se dresse une réalité humaine et une force spirituelle devant lesquelles vos pires moyens de répression sont vains. Le progrès, l'avenir du monde travaillent infailliblement contre vous. Et ce n'est pas avec mon cadavre que vous lui barrerez le chemin.
La mission ne pourra même pas être accomplie. L'avion de Ménestrel tombe en panne au-dessus des lignes françaises, se met en perte de vitesse et s'écrase au sol. Les membres brisés, Jacques gît sur une civière, ligoté, gardé par des gendarmes. Il est l'espion, un objet de haine et de dérision. Les troupes sont en retraite. Portés à bras d'homme, Jacques est ballotté, cahoté, insulté et définitivement seul. Seul à l'ultime instant de son existence, comme il a été seul, depuis le cahier gris, depuis le pénitencier. Et il mourra par hasard, parce que l'homme qui le porte a peur d'être cerné par les Allemands, parce qu'il reste seul, lui aussi, dans la débâcle, parce que peut-être au moment où il appuie le canon de son revolver sur la tempe de Jacques, il n'a pas rencontré son regard, un regard vivant.
Pour se donner le courage, pour se justifier aussi, les dents serrées, le gendarme crie « Fumier !» Cris et coups sont partis en même temps. Libre. Le gendarme se redresse et, sans se retourner, bondit dans le taillis. Les branches lui fouettent la figure, le bois mort craque sous ses bottes. À travers le fourré, le sillage de la retraite a tracé un chemin. Les camarades sont proches. Sauvés ! Il court. Il fuit le danger. Sa solitude, son meurtre. Il retient son souffle pour galoper plus vite. Et à chaque nouveau bond, pour exhaler sa rancune et sa peur, il répète « sans desserrer les dents. Fumier ! Fumier ! Fumier ! »
C'était Heure de culture française, Les Thibauts, de Roger Martin Dugard, tomes 7 et 8, l'été 1914, La mort de Jacques, par René Catroux. Lecture Hélène Duc et Jean Deschamps, première diffusion sur France 3 nationale, le 30 janvier 1959.